Vous êtes sur RTL.
Public François Hollande.
Bonsoir François Hollande.
Bonsoir.
Vous publiez un livre qui s'appelle « Répondre à la crise démocratique ». Vous avez donc conscience d'avoir laissé de vivre aujourd'hui dans un pays qui ne va pas bien. Ce sont des solutions que vous proposez et on aura l'occasion d'en parler. Mais d'abord, ce qui s'est passé hier à la mosquée de Bayonne. Un homme de 84 ans, ancien candidat du FN, connu pour ses excès verbaux, ses propos ouvertement racistes, a ouvert le feu sur des fidèles. Il en a blessé deux grièvement. Ce qu'il s'est passé hier, ce n'est pas la France, a dit Christophe Castaner à l'Assemblée cet après-midi. Est-ce que vous êtes d'accord avec le ministre de l'Intérieur ?
Ce n'est pas l'esprit de la France, ce ne sont pas les valeurs de la République et de la France. Mais hélas, ça s'est passé en France, à Bayonne. Je pense aux blessés qui sont encore dans un état grave. Et puis il y a cette agression, cette attaque, dont on verra exactement après que la justice ait fait son travail, la nature. Enfin, c'est une attaque portée contre une mosquée, contre des musulmans, et avec la volonté peut-être de tuer.
Ça veut dire que ça dit quelque chose de la France d'aujourd'hui, monsieur Hollande ?
Ça dit de ces tensions qui existent, ce climat qui est lourd, c'est-à-dire d'individus qui, à un moment, basculent dans l'extrémisme, dans la violence, dans le fanatisme. Ça peut être aussi l'islamisme. On l'a vu, hélas, et je parle en connaissance de cause, président de la République, que j'ai fait face
avec
à des épreuves terroristes d'une très grande ampleur. Oui, il y a des individus, mais il y a aussi une responsabilité collective. Il y a
qui est responsable
à avoir
de ce climat,
ces personnages qui se livrent à des actes de violence et qui ont pu commettre une attaque dans un lieu de culte. Mais il y a aussi une forme de climat que chacun doit prendre au sérieux.
C'est un climat anti-musulman en France aujourd'hui. Il y a un climat anti-musulman en France ?
Il y a un climat entretenu par des forces politiques, par des individus.
Lesquels ?
L'extrême droite, depuis longtemps, a fait de cette confrontation avec l'islam son entrée dans le jeu démocratique et reçoit aussi des soutiens. Il y a parmi les chroniqueurs, parmi les certain nombre de ce qu'on appelle des intellectuels, le mot est peut-être trop fort, mais un certain nombre de propos qui sont tenus. Et donc à partir de là, ça favorise non pas le passage à l'acte. Je crois qu'il faut toujours avoir une responsabilité individuelle, mais il y a aussi une responsabilité collective. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut appliquer les lois de la République. Et ça vaut pour tous. Ça vaut pour les questions de port de signes religieux. La loi existe, pas besoin de la réinventer, pas besoin de susciter des débats. Nous savons très bien dans quel contexte on peut ou on ne peut pas avoir un signe religieux. Il y a des lois qui doivent s'appliquer en matière de lutte contre le communautarisme ou contre l'islamisme. On voit bien qu'il y a des lieux et certaines mosquées, certains imams qui, lorsqu'ils font des prêches dans une certaine direction, doivent être sanctionnés et doivent être expulsés lorsqu'ils sont étrangers.
La loi
s'appliquer
existe,
partout.
Il suffirait de l'appliquer, c'est
il
ça
Il faut l'appliquer. Et ce qui compte, ce n'est pas d'inventer à chaque fois des dispositions nouvelles, c'est de faire respecter celles qui existent. Des propos anti-musulmans qui tombent sous le coup de la loi. Il y a effectivement des personnages qui ont été condamnés récemment encore pour avoir tenu des propos anti-musulmans, xénophobes et racistes, appelant à la haine. Eh bien là, la loi doit tomber. Et elle doit être sévère, la loi.
Est-ce que, comme le chef de l'État, vous diriez que la question du voile dans l'espace public n'est pas votre affaire ? On sait qu'il y a eu cet après-midi l'examen d'une proposition de loi des Républicains pour dire les choses simplement, pour interdire aux accompagnatrices de groupes scolaires d'être voilées. Est-ce que, comme Emmanuel Macron, vous dites « c'est pas mon problème, dans l'espace public, c'est pas mon affaire ».
C'est pas le problème d'être l'affaire du président, c'est l'affaire de tous.
Lui, il dit que c'est pas son affaire.
La laïcité, son respect, ses règles, c'est l'affaire de tous. C'est ce qui nous permet de croire ou de ne pas croire, de pouvoir exercer sa liberté de conscience ou sa liberté religieuse ou de ne pas avoir de religion particulière. C'est ça la laïcité. Donc ça, c'est l'affaire de tous. Sur les signes religieux, j'ai été confronté moi aussi, comme président de la République, à ces questions-là, et notamment pour l'accompagnement scolaire. Les règles existent. Lorsque une maman accompagne son enfant pour une sortie, elle est dans l'espace public, et même si elle est dans un transport qui parfois peut être scolaire, ou en tout cas dans un cadre qui est extrascolaire, eh bien elle a le droit d'avoir un signe. Mais elle n'a pas le droit de faire du prosélytisme. C'est la loi, appliquons-la.
La loi, rien que la loi, toute la loi, c'est ce que vous nous dites ce soir.
Oui, et surtout d'éviter d'ouvrir des débats qui, on le voit bien, renforcent les tensions et sont utilisés par les extrémistes de tout genre. Certains veulent convaincre les musulmans qu'ils sont stigmatisés et d'autres qui s'en prennent aux musulmans.
François Hollande, le chef de Daesh, Abou Bakr al-Baghdadi, a été tué par les Américains. Est-ce que, comme les Russes, vous avez des doutes sur l'existence même de ce fait ?
Non, il n'y a plus de doute.
Il n'y a plus de doute.
Il pouvait y en avoir au moment où ça s'est produit, puisque plusieurs fois, la mort de Baghdadi avait été annoncée.
Les Russes l'avaient annoncée, notamment.
Et j'avais été, moi-même, comme président, amené à m'interroger sur la réalité de ce qui s'était produit.
Mais ce soir, il n'y a plus de doute.
Je pense que les tests ADN sont clairs. Les informations qui ont été données, même si Donald Trump a des conceptions assez particulières de la communication, mais tout ce que l'on a sont convaincants. Baghdadi a été tué. Et il n'est pas le seul à avoir été tué. Il y a aussi plusieurs de ses
proches,
adjoints,
de ses
proches qui l'ont été également. Grâce aussi au soutien des Kurdes, nos alliés qui, dans cette affaire, ont fourni des renseignements qui ont été très utiles aux Américains.
Nos alliés que nous avons lâchés et que les Américains ont lâchés.
Que les Américains ont lâchés et qu'ils ont utilisés encore récemment et qu'ils sont obligés de reculer et de laisser la place au régime de Bachar el-Assad et à la Turquie. C'est extrêmement grave, ce qui pose d'ailleurs la question de l'avenir de la coalition dans laquelle nous sommes, la France, avec les États-Unis et plus largement de la question du rôle de l'OTAN aujourd'hui.
Et ça pose aussi la question de savoir ce que vont devenir les djihadistes européens et français qui sont détenus dans cette zone qui était tenue par les Kurdes. Vous avez dit, vous, que l'élimination d'al-Baghdadi était un coup dur, mais pas encore un coup fatal, qu'il fallait donc se garder de crier victoire. Ces djihadistes français, la vérité, c'est qu'on ne sait pas trop quoi en faire. On fait semblant de croire qu'ils seront jugés là-bas. Est-ce qu'on n'est pas bien imprudent ? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire les autruches avec eux ?
Il y a des djihadistes français qui sont détenus en Irak parce qu'ils ont commis des exactions, des crimes en Irak. Et il est donc légitime que les autorités irakiennes les jugent et que la justice irakienne les condamne. Et puis, il y en a qui sont retenus en Syrie, dans le chaos
plus
que l'on connaît.
Plus ou moins retenus, on n'en sait plus très, bon, sait plus
avec
très bien.
Avec le risque que nos amis kurdes, à un moment, ne soient plus en état de les garder. Donc il y a une discussion à ouvrir assez rapidement pour savoir ce qu'il faut faire pour être sûr.
Et quelle est votre conviction ? Est-ce qu'il faut les neutraliser là-bas ? Est-ce qu'il faut les faire revenir ici ?
Certains qui ont commis des crimes en Irak doivent être emmenés en Irak pour être jugés. D'autres, le mieux ce serait qu'il y ait un tribunal international qui puisse être rapidement constitué.
Oui, mais ça c'est dans un état de droit, là on est dans le chaos.
Et pour certains, je pense d'abord aux familles, parce qu'on a aussi à régler la question des familles, les enfants et les mères, parce qu'il ne faut pas les laisser dans cette situation incertaine. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin dans le retour des enfants et des familles. Et après, pour les djihadistes, avoir un système qui puisse être celui de toute l'Europe.
Et qui serait quoi ?
Qui serait d'avoir une justice qui puisse intervenir sur place et rapidement.
Donc sur place quand même, pas les ramener ?
Je pense qu'aujourd'hui, les ramener supposerait qu'on ait les moyens de trouver sur place les conditions pour leur transfert.
François Hollande, dans le livre que vous publiez, Répondre à la crise, vous cherchez des solutions pour lutter contre ce que vous appelez le malaise qui s'est installé en démocratie, les extrémistes qui s'installent au pouvoir ou le perturbent, contre le recul des grands partis de gouvernement. Parfois, écrivez-vous, au bénéfice de formations politiques construites autour de leaders surgis de nulle part. Coucou Emmanuel Macron. Vous dites, si je simplifie, que les Français trouvent que les choses ne vont pas assez vite, notamment pour répondre aux crises, et votre réponse dans ce livre, elle est institutionnelle. Est-ce que c'est la bonne réponse, une réponse institutionnelle comparée à tous les problèmes auxquels sont confrontés les chômeurs, ceux qui souffrent de l'insécurité, ceux qui sont inquiets des problèmes d'éducation, etc.
D'abord, la crise de la démocratie, elle n'est pas propre à la France. Elle est partout. Et c'est bien là le problème que l'on rencontre. J'ai évoqué les États-Unis, avec un président qui s'affranchit de toutes les règles. Nous pourrions parler ce soir de ce qui se passe au Royaume-Uni. Démocratie parlementaire,
on en parlera sans doute tout à l'heure.
Jusque là, exemplaire, elle est en crise. En Italie, où l'extrémisme pousse, et en France, on a longtemps prétendu, et moi aussi, que les institutions nous prémunissaient contre la crise démocratique. Or, nos institutions, en réalité, donnent au président de la République, c'est vrai, beaucoup de pouvoir, créent une forme de concentration du pouvoir, sans que lui-même soit protégé, on l'a bien vu avec les gilets jaunes, des tumultes qui existent dans la société française. Vous avez raison, bien sûr que la réponse ne peut pas être qu'institutionnelle. Mmh. C'est pas parce qu'on va donner un peu plus de clarté à nos institutions, d'équilibre pour, entre l'exécutif, le président de la République, et le législatif, le Parlement, que l'on va trouver immédiatement pour les citoyens des aspirations qui ne pourront pas être retenues dans le système actuel. Donc les réponses, elles sont aussi politiques. Vous avez évoqué la crise des partis. Mmh. Nous sommes dans une société, et on n'est pas loin du sujet que vous avez évoqué au début. Où sont les corps intermédiaires? Où sont les structures qui permettent à des individus qui sont un peu désemparés de trouver des références? Les grands partis se sont effondrés, les nouveaux ne les ont pas remplacés, les syndicats sont dans une position faible, on va voir à travers des mouvements
la
sociaux.
La faute en partie, Emmanuel Macron, non, parce qu'il ne les a pas considérés, notamment
faute,
au début de son mandat.
Il y a toujours des responsabilités, mais essayons d'élargir. La faute à des institutions, on pense que le président peut tout faire. Mmh. Et on voit qu'il ne peut réaliser finalement, y compris son programme, que s'il consulte, que s'il dialogue. Mais faut-il encore trouver des partenaires? Et quand on ne prend pas la main qui se tend, quelquefois il y a effectivement des retours de manivelle assez douloureuses.
Alors dans vos propositions, il y a le passage du mandat du chef de l'État de 5 à 6 ans, vous supprimez le Premier ministre, vous renforcez le rôle du Parlement avec une assemblée élue pour 4 ans seulement. Deux de vos anciens premiers ministres ont dit ce qu'ils pensaient de vos propositions dans l'ordre. Bernard Cazeneuve, il y a quelques jours ici même sur RTL, et puis Manuel Valls ce matin chez nos confrères d'Inter. On écoute les deux.
Je suis souvent d'accord avec François Hollande, mais pour ce qui me concerne, là, j'ai peur d'être un petit peu en décalage avec lui. Et nous n'avons pas besoin aujourd'hui de fragiliser ces institutions qui nous ont permis, dans des moments bien difficiles, d'affronter bien des épreuves.
Je pense que le système des institutions de la Ve République est solide, il permet de gouverner, et la dualité président-premier ministre me paraît être celle qui fonde l'équilibre. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution, et encore moins avec un sextennat, je crois.
Sans
possibilité d'être réélu, je pense que ça ne marche pas.
Ça marche pas. Ils sont sévères les deux. Hein.
Oui, mais je peux comprendre. On est toujours assez conservateurs sur le plan des institutions.
Ils n'ont pas peur de perdre leur boulot, ils l'ont déjà perdu.
Oui, hein,
donc ils sont plus premier ministre. Non, mais c'est pas pour la fonction.
Moi-même, je l'ai perdu aussi. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes libres. On peut évoquer des débats. Nous pensons tous que la question institutionnelle est secondaire. Et c'est vrai qu'à partir du pouvoir d'achat, de l'emploi, on peut davantage redonner confiance. Et je m'inscris dans cette direction. Mais il faut aussi avoir conscience que nos institutions sont fragiles. Mmh. J'évoque la dérive présidentielle, ce qui ne remonte pas à Emmanuel Macron, qui existe depuis le quinquennat et même avant. Mais on voit bien qu'elle expose le chef de l'État à des crises de plus en plus fréquentes. Deuxièmement, la question du Premier ministre, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui ont été Premier ministre parce que je les ai choisis, mais il y a quelque chose qui est assez incompréhensible pour les Français.
Vous avez du respect parce que vous les avez choisis. C'est très très Hollande, hein, ça, comme raisonnement.
Mais je les ai choisis parce que je pensais qu'ils étaient les plus compétents dans la fonction qui était la leur. Mais d'une certaine façon, c'est assez surprenant pour les Français. Ils élisent un président de la République tous les 5 ans. Ils l'investissent d'un pouvoir qu'ils croient considérable. Et le premier geste, la première décision que prend le président de la République, c'est de nommer un premier ministre. Alors c'était tout à fait compréhensible dans un septennat, c'était encore plus nécessaire quand il y avait une cohabitation. Là, il y avait la nécessité d'avoir un premier ministre qui n'était pas de la même famille politique. Mais aujourd'hui, avec une majorité, puisque l'inversion du calendrier a eu cet effet-là, avec une majorité totalement soumise, mais à quoi correspond encore le Premier ministre? D'autant que le Premier ministre dans nos institutions a du pouvoir. Mmh. Et donc ça fait un échelon de plus. On dit souvent, c'est long, c'est pas efficace, pourquoi il y a autant de débats à l'intérieur du système politique? Mais il faut être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Et de ce point de vue, je considère que dans un quinquennat, la question du Premier ministre ne doit plus être posée.
Mais ce serait donc un sextennat, 6 ans que vous proposez. Est-ce que Bernard Cazeneuve peut être celui qui relèvera votre camp, celui du PS, de la social-démocratie?
Moi, j'ai beaucoup d'amitié pour Bernard Cazeneuve.
Ça, on n'en doute pas.
Oui, mais ça compte. Ce n'était pas simplement que des questions politiques. Je pense qu'il a beaucoup de talent et qu'il a montré un sens de l'État. Donc il fait partie vraiment de ceux, et ils ne sont pas si nombreux, qui peuvent relever la gauche et notamment le Parti Socialiste.
Et est-ce que vous pourriez être rivaux en 2022?
Mais non, écoutez, aujourd'hui, cette question, elle est totalement...
Elle est dans tous les esprits, François.
Oui, dans les esprits, mais pas dans la réalité.
Mais elle est dans le vôtre aussi.
Non, aujourd'hui, la question n'est même pas évoquée. Mais ce que je crois, c'est que Bernard Cazeneuve, puisque vous m'interrogez sur lui, pas sur moi, vous avez raison, que Bernard Cazeneuve, il a toutes les capacités pour...
Il pourrait être un bon candidat en 2022.
Pour aller même plus loin que d'être Premier ministre, c'est ça que vous me posez comme question.
Donc il pourrait être un bon candidat pour 2022.
Mais faut-il encore qu'il le veuille? Faut-il encore que ce soit possible?
Vous pourriez le pousser, le soutenir?
Mais moi, je serai toujours pour celui ou celle qui peut faire gagner les idées que je défends. Mmh. Et si je n'ai jamais de conception personnelle ou égoïste. Moi, j'ai été président.
C'est fini pour vous, ça, ou pas ?
Non, mais j'ai été président, c'est une fonction éminente. Mmh. Je remercie les Français de m'avoir confié cette responsabilité. Je l'ai été dans une période très difficile. Je n'ai pas à avoir une obsession de la présidence. J'ai été.
Non, mais c'est intéressant de savoir d'où quelqu'un nous parle, d'où vous
écrivez ce livre et avec quel projet et en liberté
et en indépendance.
Puisque je n'ai pas d'intérêt. J'essaye de dire aux Français ce que je crois, expérience faite.
On va passer quelques petites minutes de pub, mais juste avant, par oui ou par non. 2022, oui ou non ? C'est possible ou c'est exclu ? Possible ou exclu ?
Il arrivera une élection en 2022.
Oui, ça on sait.
Oui, voilà, je peux.
Mais la candidature de François Hollande, elle est possible ou elle est exclue ?
J'ai été candidat, j'ai été président.
Oui, ça on sait aussi.
Je n'ai pas aujourd'hui de démarche pour être candidat la prochaine fois. Voilà ce que je peux vous dire. J'essaye d'être le plus libre possible et c'est déjà important de pouvoir m'exprimer en toute indépendance. Et si je commençais à dire que je commence à réfléchir à 2022, y compris mon propos serait déformé. Parce qu'on dirait, s'il annonce un sextennat ou s'il est pour supprimer le poste de Premier ministre, s'il est pour de nouvelles institutions, c'est bien parce qu'il est intéressé. Bon. Et je ne le suis pas.
Ah, vous ne l'êtes pas. Il y a quand même des façons.
Mais je suis intéressé à ce que cette réforme puisse
vous
un
précisez
jour,
quand même.
Être mise en œuvre, sinon je ne m'exprimerai pas.
C'est long comme réponse par oui ou par non, mais bon,
parce
on avance.
Heureusement qu'on ne répond pas par oui ou par non à toutes les questions.
On fait une courte pause et on se retrouve. François, vous répondrez notamment aux questions des auditeurs
d'RTL. Et pas par oui ou par non.
Ah bah,
je le promets aux auditeurs.
Au 32-10.
18h31.
Sur les réseaux sociaux, réagissez à l'actualité avec le hashtag RTL Soir.